Peut-être ne savez-vous pas que sous l'ancienne alliance, il fallait avoir au moins 30 ans avant d'avoir le droit de lire le Cantique des Cantiques, ainsi que le livre du prophète Ézéchiel. On se fait pas mal de fausses idées sur les textes sacrés, et on s'imagine aussi que le langage est prude, réservé et chaste. Je commence de lire le chapitre 23 d'Ézéchiel, qui, vous allez voir, est croustillant. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils d'homme, il y avait deux femmes nées d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Oui, là, dès leur jeunesse, elles se sont prostituées. On leur a caressé les seins et l'on a saisi leurs seins de jeunes filles. » Une fois encore, le prophète met les fautes des habitants de Jérusalem devant leurs yeux. Et pour bien faire ressentir combien elles font horreur à l'Éternel, il utilise des images choquantes dans le but de sortir ses auditeurs de leur torpeur spirituelle et donc de susciter en eux la repentance. Les deux femmes représentent les deux royaumes israélites, celui des 10 tribus du Nord et celui de Juda. En Égypte, ils formaient un peuple unique, la mère. Mais elles, ou plutôt ces deux filles, se sont prostituées aux idoles. La plus grande, c'est Ohola, et sa sœur, c'est Oholiba. Elles m'appartenaient, elles m'ont donné des fils et des filles. Ohola, c'est Samarie, et Oholiba, c'est Jérusalem. Samarie était la capitale d'Israël Nord. Son nom, Ohola, signifie « sa propre tente ». Une allusion au sanctuaire illégitime érigé dans le royaume des 10 tribus. C'est le roi Jéroboam qui est à l'origine de cette idolâtrie. Il installa deux veaux d'or, l'un à Bethel et l'autre tout au nord dans la tribu de Dan, afin que son peuple n'aille pas à Jérusalem de peur que les deux royaumes se réunifient et lui soient écartés du pouvoir ou pire, exécutés. Sa sœur Juda porte le nom de Oholiba, ce qui veut dire « ma tante en elle », une allusion au temple légitime de Jérusalem. Je continue en compressant tout au long. Ohola était mienne, mais elle s'est prostituée. Ce fut avec passion qu'elle aima ses amants, les guerriers assyriens. Elle n'a pas délaissé ses prostitutions du passé dans le pays d'Égypte. Là-bas, les Égyptiens avaient couché avec elle dans sa jeunesse. Ils avaient saisi ses seins de jeune fille et l'avaient submergée de leur prostitution. Au lieu de faire confiance à l'Éternel, les Israélites tentaient de s'allier aux Assyriens, aux Égyptiens et aux Babyloniens. Et bien sûr, adoptaient leur fausse divinité. Cette apostasie est une prostitution religieuse. Je continue. Aussi, je l'ai livré à ses amants, les Assyriens. Eux, ils la mirent à nu. Ils se sont emparés de ses fils et de ses filles, puis ils l'ont tué par l'épée. Samarie détruite, le royaume des 10 tribus du Nord fut rayé de la carte. Je continue. Sa sœur, Oholiba, a bien vu tout cela, mais dans ses désirs passionnels, elle s'est corrompue plus qu'elle, et ses prostitutions ont été encore pires que celles de sa sœur. Elle a brûlé d'un désir passionnel pour les Assyriens. Mais la deuxième sœur alla plus loin encore dans la prostitution. Elle vit sur les murs des hommes dessinés, des représentations des Chaldéens dessinés, peints en rouge. En les voyant, elle s'est enflammée pour eux d'un désir passionnel. Elle a dépêché des messagers vers eux dans la Chaldée. Et les Babyloniens se sont rendus chez elle pour partager son lit et pour la rendre impure par leur prostitution. Depuis l'époque du roi Ahaz, Juda cherche une alliance avec la Syrie. Ahaz va même à Damas pour y rencontrer le roi assyrien, Tiglath-Pileser. Là, il découvre un autel qui l'impressionne tellement qu'il en fait faire une réplique à Jérusalem. Mais après la conquête de la Syrie par les Babyloniens, Judas se met à chercher leur bonne grâce. Les Assyriens et les Babyloniens couvrent les murailles de leurs palais de peintures représentant des scènes de guerre, de chasse et de victoire. Quand les ambassadeurs de Jérusalem vont à Ninive, capitale de la Syrie, puis à Babylone, à leur retour, ils racontent avec admiration ce qu'ils ont vu dans ces villes. Certains rois de Juda, et Sédécias en particulier, imitent alors dans leurs palais ces peintures brillantes, ce qui bien sûr facilita la pénétration de l'idolâtrie chaldéenne dans Juda. Je continue. Quand elle fut déshonorée par les Babyloniens, elle les apprit en dégoût. Tu as voulu revivre les débauches de ta jeunesse lorsque les Égyptiens te saisissaient les seins et caressaient tes seins de jeune fille. Quand le joug de Babylone a trop pesé, Judas, dégoûté de cette dépendance, a cherché en Égypte son soutien militaire. C'était comme si elle revenait à son idolâtrie en Égypte appelée « débauche de ta jeunesse ». Je vous avais bien dit que le langage d'Ézéchiel était cru. Je continue. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, te déclare. Écoute, ô Oliba, je vais dresser tes amants contre toi, ceux que tu as pris en dégoût, les fils de Babylone et tous les Chaldéens. Je répandrai sur toi l'indignation de mon amour que tu as bafoué. Ils exerceront leur fureur contre toi, et ils te couperont le nez et les oreilles. Ce qui restera tombera par l'épée. Ils prendront tes fils et tes filles, et ceux qui subsisteront seront livrés au feu. Pour se venger de l'infidélité d'Israël avec l'Égypte, Babylone détruira Jérusalem. Les premiers séducteurs de Juda sont ses bourreaux. Comme les Assyriens, les Babyloniens mutilaient leurs prisonniers. Ézéchiel poursuit avec un langage toujours cru. Je continue le texte plus loin. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. La coupe que ta sœur a bue, tu la boiras aussi. Coupe large et profonde, qui donnera à rire, à se moquer, tant elle est grande. Tu seras rassasié d'ivresse et de tristesse. C'est une coupe de dévastation et d'effroi. La coupe de ta sœur, de Samarie. La coupe est une image classique de jugement. Jérusalem va subir le même sort que Samarie et les autres nations se moquant de Juda. Je continue. Tu boiras cette coupe et tu la videras, tu la briseras en morceaux et, avec ses tessons, tu te lacéreras les seins, car c'est moi qui le dis. Puisque tu m'as mis en oubli, que tu m'as rejeté en me tournant le dos, tu paieras toi aussi pour tes débauches et ta prostitution. La gratitude de l'homme envers l'amour de Dieu se paie très cher. Ô Eliba, se lacérant les seins, exprime le carnage, l'or du sac de Jérusalem. Je continue. Puis l'Éternel me dit, prenons un jugement contre Ô Ola et contre Ô Eliba et dénonce leurs abominations. Car elles ont été toutes deux adultères, et les mains de chacune sont couvertes de sang. C'est avec leurs idoles qu'elles ont commis adultère. Elles leur ont sacrifié les fils qu'elles m'ont enfantés pour qu'elles les dévorent, quand elles immolaient leurs fils à leurs idoles. Elles sont entrées, ce jour même, dans mon sanctuaire pour le profaner. Oui, voilà ce qu'elles ont fait au milieu de mon temple. L'idolâtrie des Israélites est abjecte, car elle va jusqu'au sacrifice de tout petits enfants au dieu Moloch. Mais cela ne les empêche pas d'offrir aussi un culte à l'Éternel, qui est donc sans cesse mêlé aux idoles et mis au même niveau qu'eux, un crime de lèse-majesté. Je continue. Elles ont envoyé chercher au loin des hommes. Pour eux, tu t'es baigné, tu t'es fardé les yeux, tu as mis tes bijoux, et tu t'es couché là, sur un lit d'apparat devant lequel on a disposé une table et tu as posé mon encens et mon huile. Les Israélites du Nord et de Juda se sont mis à plat ventre pour gagner les bonnes grâces des rois étrangers. Ils leur offraient les richesses que l'Éternel leur avait données et qui auraient dû être consacrées à son culte et à son service dans la foulée. Ils ont aussi adopté l'idolâtrie grossière et dégradante des peuples païens. Au niveau spirituel, les deux sœurs sont des prostituées de bas étage qui attirent à elles n'importe qui. Je continue plus loin. Mais, par des hommes justes, elles seront ensemble jugées selon la loi des femmes adultères et la loi sur les femmes qui répandent le sang, car elles sont bien adultères et ont du sang sur les mains. Bien que de sombres bruses épaisses, les soldats babyloniens sont appelés justes parce qu'ils ont l'épée de Dieu. Jérusalem est jugée selon la loi qui condamne à mort les meurtriers et les adultères. Je finis de lire le chapitre 23. Je ferai retomber sur vous votre débauche et vous paierez vos péchés avec des idoles. Vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur l'Éternel. Ce discours, particulièrement menaçant, renferme quand même une lueur d'espoir. Car celui qui reconnaît qu'il est châtié par Dieu à cause de son péché fait le premier pas vers la repentance et donc le pardon. Nous arrivons au chapitre 24 qui est particulièrement tragique autant pour Judas que pour Ézéchiel. Je commence à le lire. Le dixième jour du dixième mois, dans la neuvième année, l'Éternel m'adressa la parole et me dit, « Fils de l'homme, note par écrit la date d'aujourd'hui, de façon précise, car aujourd'hui même, le roi de Babylone a commencé les opérations contre Jérusalem. » La neuvième année après la déportation du roi légitime Yoyakin correspond au 15 janvier 588 avant Jésus-Christ. Ézéchiel, qui est alors en terre d'exil, reçoit cette information le jour du début du siège de Jérusalem. En notant cette date, les exilés pourront vérifier plus tard l'exactitude de cette révélation. Alors qu'aujourd'hui nous pouvons voir en direct sur nos petits écrans des gens se faire massacrer, à cette époque, il faut des semaines ou des mois avant qu'on apprenne la nouvelle. Je continue. Raconte une parabole à la communauté rebelle. Dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Prépare la marmite, mets-la en place et verse-y de l'eau. Mets-y de bons morceaux de viande, tous les meilleurs morceaux, le gigot et l'épaule. Finis de la remplir avec des eaux de choix. Ézéchiel reprend la métaphore de la marmite du chapitre 11, mais en lui donnant un autre sens. Les bons morceaux de viande sont les Israélites qui croient avoir échappé à la première déportation à cause de leur supériorité sur leurs frères exilés. Les meilleurs morceaux représentent les riches et les os, sont l'armée et les chefs qui ont la charge de défendre la ville. Je continue. Prends les meilleurs moutons dans le troupeau, puis entasse le bois sous la marmite. Fais-la bouillir à gros bouillon, que même les os cuisent. Le feu sous la marmite est le châtiment de Dieu infligé par les Babyloniens. Je continue. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Malheur à la ville meurtrière, marmite couverte de vert-de-gris, et dont le vert-de-gris ne s'en va pas. Retirez-en les morceaux les uns après les autres, sans tirer aux sœurs. Jérusalem est remplie de meurtres impies. Le vert-de-gris représente le sang versé qui n'a pas été nettoyé par la mort des malfaiteurs et par la repentance de la ville entière. Ce sang qui crie vengeance reste sur la conscience des habitants comme le vert-de-gris attaché aux parois d'une chaudière. Comme les morceaux, tous les habitants, sans exception, vont subir le jugement de Dieu et être dispersés ou tués. Avant de jeter la pierre aux Israélites, rappelons-nous que, comme eux, nous sommes incrustés de vert-de-gris. Mon péché est une tache sur la création de Dieu. Je continue. Car le sang qu'elle, Jérusalem, a versé est toujours au milieu d'elle. Il n'a pas été répandu sur la terre où la poussière l'aurait recouvert, non. Elle l'a versé sur la roche nue. Les meurtres se font au grand jour, car ils ne sont pas sanctionnés. Je continue. Pour faire déborder ma colère et lui faire payer ses crimes, j'ai fait verser ce sang sur la roche nue pour qu'il ne soit pas recouvert. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, déclare ceci. Malheur à la ville sanguinaire, moi aussi, je dresserai un grand bûcher. Dieu va mettre le feu à la ville et verser le sang des criminels sur les pavés de Jérusalem. Je continue plus loin. Ensuite, tu mettras la marmite vide sur des brasiers pour qu'elle chauffe, que son cuivre rougisse et que ses impuretés se fondent à l'intérieur et que son vert-de-gris soit consumé. Mais tous ces efforts sont inutiles. Le vert-de-gris dont elle est couverte en quantité ne partira pas par le feu. Ézéchiel doit maintenant nettoyer le vert-de-gris de la chaudière, mais le feu, le plus ardent, ne réussit pas à détacher cette croûte épaisse. Jérusalem, la marmite, qui a obstinément refusé de revenir à Dieu, sera consumée après avoir été vidée de ses habitants, c'est-à-dire détruite par le feu pour être purifiée. Je continue plus loin. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. « Fils de l'homme, je vais t'enlever par une mort soudaine, celle qui charme tes yeux, mais tu ne célébreras pas de deuil, tu ne pleureras pas, tu ne verseras aucune larme. J'ai mis en silence, mais n'accomplis pas de rite funèbre. Mets ton turban sur la tête et tes sandales aux pieds. Ne te couvre pas la moustache et n'accepte pas le pain de condoléance des voisins. » Ézéchiel doit accomplir un nouveau mime prophétique, mais qui lui sera personnellement très douloureux. Il apprend en effet que sa femme, qu'il aime tendrement, va subitement mourir. Mais il devra rester indifférent à ce malheur, cacher sa douleur et ne pas prendre le deuil. Dans les circonstances tragiques, les Israélites ont coutume d'ôter leur coiffure pour se mettre des cendres sur la tête, de rester pieds nus, et de se couvrir la barbe et le bas du visage jusqu'au nez. Le pain de condoléance est un aliment que les amis envoient à la famille en deuil. Je continue. Le matin, je m'adressais au peuple, et le soir même, ma femme mourut. Le lendemain matin, j'agis conformément à ce qui m'avait été ordonné. Alors les gens me demandèrent, « Pourquoi agis-tu de la sorte? Nous expliqueras-tu ce que cela signifie pour nous ?» Je leur répondis, « L'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Dis à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais profaner mon sanctuaire dont vous croyez tirer votre force et dont vous êtes si fiers, qui charme vos yeux et qui est l'objet de votre sollicitude. Vos fils et vos filles que vous avez laissés là-bas tomberont par l'épée, et vous agirez comme j'ai agi. Vous ne vous couvrirez pas la moustache et vous ne mangerez pas le pain de condoléance de vos voisins. » La consécration et l'obéissance d'Ézéchiel sont totales. Il montre à ses contemporains exilés la conduite à tenir quand on leur annoncera la destruction de Jérusalem et du Temple. Il existe des circonstances où les considérations d'ordre personnel doivent céder le pas devant la volonté de Dieu. Et puis surtout, aucune manifestation de douleur ne peut exprimer la profonde détresse que sentiront les exilés à l'annonce de la destruction du Temple de Jérusalem, de la mort ou de l'exil des habitants, dont des membres de leur propre famille. Tout comme Ézéchiel a perdu celle qui charmait ses yeux, les exilés vont perdre Jérusalem et le Temple qui charmaient leurs yeux. Il faut en effet savoir que les Israélites s'enorgueillissent et tirent leur gloire du Temple dont la présence les rassure même contre les menaces que leur adresse l'Éternel. Mais la nouvelle de la destruction mettra une fin abrupte et définitive à toutes leurs fausses illusions. Je continue. Vous garderez vos turbans sur la tête et vos sandales aux pieds. Vous ne célébrerez pas de deuil et vous ne pleurerez pas, mais vous dépérirez à cause de vos péchés et vous gémirez les uns auprès des autres. Ce que Ézéchiel a fait vous servira de signe. Quand cela arrivera, vous agirez exactement comme il a agi et vous reconnaîtrez que je suis le Seigneur, l'Éternel. Les cérémonies de deuil, avec leurs démonstrations bruyantes, sont des analgésiques, une façon de faire taire la douleur suite à un drame. Ici, Dieu veut au contraire que les exilés gardent la tête froide et rentrent en eux-mêmes afin de bien réaliser que c'est leur péché et celui de leurs frères qui ont attiré sur eux ce châtiment sans précédent. Ils doivent d'abord battre leur culpe dans le secret de leur demeure et s'incliner en silence devant le juste jugement de Dieu. Ils devront verser, l'un dans le cœur de l'autre, leur douleur à voix basse, comme on doit le faire dans les moments de grande détresse, lorsque la main de Dieu s'appesantit sur l'homme. Cette profonde remise en question doit les conduire à une crise salutaire, à une prise de conscience de leur faute et à la repentance, afin qu'en eux se dessine le reste fidèle qui sera le nouvel Israël. Je continue. Et maintenant, fils d'homme, écoute, le jour vient où je leur reprendrai leur sanctuaire qui fait leur force, leur joie, leur parure et qui charme leurs yeux, ainsi que ce qui fait l'objet de leur sollicitude, leurs fils et leurs filles. Jérusalem était la ville que Dieu s'est choisie, et le temple était sa maison terrestre, et ils auraient dû être ses témoins dans le monde. Mais à cause des rébellions incessantes de son peuple, Dieu les a détruits, et il est désormais trop tard pour pleurer et se lamenter. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus avertit les églises d'Asie mineure que si elles ne lui restent pas fidèles, il ôtera leur témoignage. Aujourd'hui, il n'en reste aucune. Elles ont toutes disparu au profit de l'islam. Je finis de lire le chapitre 24. En ce jour-là, un rescapé arrivera vers toi pour annoncer la nouvelle. En ce jour-là, quand ce rescapé arrivera, tu pourras ouvrir la bouche et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu leur serviras de signe et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Ces derniers versets servent de conclusion à la première partie du livre d'Ézéchiel. Au début de son ministère, l'Éternel avait interdit aux prophètes de parler aux exilés comme on le ferait avec ses voisins et ceux qui nous entourent. Ils ne devaient ouvrir la bouche que lorsque Dieu mettait une parole sur ses lèvres. À partir de maintenant, Dieu lui impose un mutisme complet, et cela jusqu'au jour où un réchappé de Jérusalem viendra apporter la nouvelle de sa destruction. Quelle éloquence dans ce long silence qui sera comme le calme qui précède la tempête. Ézéchiel va se taire pour laisser la parole aux événements que l'Éternel dirige. Ce mutisme symbolise la disparition totale du vieil Israël. Quand la parole sera rendue au prophète, il pourra accomplir la seconde partie de son ministère qui consiste à annoncer des grâces futures de l'Éternel envers son peuple et donc la renaissance d'Israël de ses cendres, pour ainsi dire. Il faut parfois que toute espérance terrestre disparaisse pour que l'homme s'ouvre à l'espérance qui vient d'en haut.